Les versets lus sont les suivants. Luc 3, verset 22. Et il y eut une voix qui venait du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Luc 23, verset 34. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Matthieu 27, verset 46. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Luc 24, verset 50. Et, levant ses mains en haut, il les bénit.
Quatre déclarations. Le Père s'adressant au Fils. Jésus concernant ses bourreaux. Le Fils de l'homme s'adressant à Dieu. Et enfin, le Seigneur Jésus s'adressant à ses disciples. Ces quatre déclarations marquent la fin des quatre phases essentielles de la vie du Seigneur sur la terre. La première phase, revenons en Luc 3, la première phase concerne son enfance. Et nous pouvons relire en complétant la déclaration, Luc 3, 22 au 21. Jésus aussi étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et il y eut une voix qui venait du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. » La conclusion de sa vie, on peut dire de son enfance, qui comprend sa petite enfance, sa naissance, petite enfance, sa phase d'ado, sa phase de jeune homme, d'homme fait, jusqu'à l'âge d'environ 30 ans. Pendant ces 30 années, la parole nous dit très très peu de choses concernant ce que Jésus a été. Mais la conclusion de cette phase a été cette déclaration, on pourrait dire admirative et d'approbation totale sur ces 30 ans qui viennent de se passer. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai trouvé mon plaisir. Quelle satisfaction pour Dieu, pour le Père, de voir comment son fils s'est comporté pendant toute cette période. S'il est très très peu parlé de ce qu'il a fait pendant cette période, il y a quand même deux éléments qui nous sont donnés et que l'on peut lire. Le premier, dans le chapitre 2, Luc 2, et au verset 49, « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père ?» Voilà ce qui était le motif principal de cette période, être aux affaires de son Père, être toujours occupé de satisfaire ce que le Père lui disait de faire. Rien ne venait de sa propre volonté, Mais dans toute cette période, sa priorité était aux affaires de son père. Et on comprend alors comment le père était satisfait de voir son fils tellement attentif à ses intérêts, les intérêts de son père. Et puis, deuxième chose, au verset 51 de ce même chapitre, il descendit avec eux, ses parents, et vint à Nazareth, et leur était soumis. La soumission de Jésus à ses parents. Voilà les deux seuls points qui nous sont révélés de son comportement pendant ses 30 ans. La soumission, comme deuxième point, la soumission à ses parents. Et ça a été quelque chose pour le père qui a été un motif de son approbation, de sa pleine satisfaction pour son fils. L'obéissance. Alors donc ces deux choses, l'intérêt pour les affaires de son père, il prenait à cœur ses intérêts. Seconde chose, il était soumis dans le milieu dans lequel il se trouvait. Alors quel exemple pour nous? Quel exemple pour nous? Avoir à cœur les intérêts du Seigneur dans notre marche. Comme priorité dans nos appréciations, que ce soit ses intérêts qui soient devant nos yeux pour les faire, pour les accomplir. Et puis, être soumis. Pas seulement à ses parents, bien sûr, et du reste, toutes les épîtres nous parlent de cette soumission aux autorités, cette soumission les uns aux autres dans la crainte de Christ, et bien sûr la soumission aux parents. Être soumis, c'est quelque chose qui est bien souvent contraire à notre vieille nature, mais le Seigneur en a montré l'exemple, et nous savons que lorsque nous manifestons cette soumission, nous sommes approuvés de Dieu. Alors donc le Seigneur, dans cette première phase, qui avait la priorité aux affaires de son Père et qui était soumis, est un exemple pour nous aujourd'hui. La deuxième déclaration, nous l'avons lue au Luc 23. Nous relisons le paragraphe au verset 33. Et quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à la gauche. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Cette déclaration achève, conclut, toute la phase, cette deuxième phase de sa vie, qui était son ministère public. Depuis le Jourdain, où il a été baptisé, où il y a eu cette déclaration du Père, jusqu'à la croix. Que s'est-il passé pendant cette période? Les évangiles nous retracent cette vie qu'il a passée ainsi, de lieu en lieu, en faisant du bien, cherchant à sauver ceux qui étaient perdus, manifestant son amour à tous les hommes, sa patience, son intérêt pour les autres, pour leur faire du bien, pour les guérir, ressusciter, tout ce qu'il a pu faire durant sa vie. Mais comment a-t-il été reçu? Il vient chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. Il a été méprisé, on l'a injurié, il n'a pas été compris. Il aurait tellement voulu que ces brebis dispersées puissent être rassemblées. Mais tout le travail d'amour qu'il avait opéré durant ces un peu plus de 3 ans de son ministère public n'ont abouti à rien. Et on retrouve cette déception dans cette expression de Ésaïe, Ésaïe 49. Ésaïe 49 et au verset 4. Et moi j'ai dit, j'ai travaillé en vain. J'ai consumé ma force pour le néant et en vain. Oui, le Seigneur n'a pas pu réunir ceux qui étaient dispersés dans cette période de ministère. Mais au contraire, il a trouvé cette opposition, cette méchanceté humaine qui a trouvé son paroxysme lorsque ils l'ont tenu entre leurs mains, lorsque il a été frappé par les verges, lorsqu'il a été bafoué. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Si tu es le roi des Juifs, descends de la croix. Si Dieu t'aime, qu'il te délivre maintenant. Quelles injures morales, quelle méchanceté humaine, mais finalement, crucifié. Ce supplice tellement douloureux. Il est là sur la croix, complètement innocent, accusé injustement dans des souffrances physiques et morales intenses. Que dit-il? Père, pardonne-leur. Pouvons-nous trouver une expression d'amour plus grande qu'une telle parole? Alors qu'il est dans une telle souffrance, dans un moment d'une telle injustice, pouvoir intercéder pour ces méchants qui ont osé mettre la main sur lui. Père, pardonne-leur. Et même ils trouvent encore un motif pour cela, car ils ne savent ce qu'ils font. Quel amour infini que le Seigneur manifeste ainsi. Au paroxysme de sa douleur que les hommes lui ont infligée. Et cela reflète toute sa vie, l'amour pour les hommes, l'amour pour ceux qu'il venait délivrer de la puissance de l'ennemi. Un amour qui ne cherche et qui ne trouverait sans doute rien d'aimable, mais un amour divin qui veut sauver les hommes. Père, pardonne-leur. On peut dire que c'est vraiment la conclusion de ce témoignage, de cette deuxième phase de sa vie. Quel exemple pour nous. Là encore, personne ne pouvait manifester un amour aussi grand en intercédant pour ceux qui lui faisaient du tort. Et nous sommes invités aussi à pardonner. Et plusieurs passages nous le rappellent, mais nous pouvons juste lire dans Éphésiens au chapitre chapitre 5. On peut lire au verset 4, chapitre 4 déjà, et au verset 32, Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. Soyez donc imitateurs de Dieu, comme de bien-aimés enfants, et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même pour nous, comme offrant des sacrifices à Dieu, en parfum de bonne odeur. Père, pardonne-leur. Nous sommes invités à être des imitateurs de Dieu qui nous a pardonnés parce qu'il a répondu à cette prière de Jésus. Vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. Nous avons besoin d'avoir cet exemple devant nos yeux, de celui qui a intercédé ainsi pour ceux qui lui ont fait tant de mal. Nous n'aurons sans doute jamais à souffrir une telle méchanceté de la part des hommes dans nos pays. On peut l'espérer. Mais nous avons sûrement des sujets pour nous pardonner les uns aux autres. Nous sommes tellement sensibles. Il faut si peu de choses pour que nous soyons blessés, si peu de choses pour que un frère, une sœur nous heurte. Alors sachons pardonner. C'est tellement peu de choses par rapport à ce que Dieu nous a lui-même pardonné en Christ. Mais ayons cette pleine liberté, cette pleine spontanéité pour pardonner. Si nous estimons que notre frère ou notre sœur nous a causé du tort. Père, pardonne-leur. La troisième phase de sa vie se conclut par ce cri que nous avons lu dans Matthieu 27. Nous relisons le contexte. Matthieu 27, verset 45. Mais depuis la sixième heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la neuvième heure. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la quatrième parole de la croix que le Seigneur a exprimée sur la croix. C'est la parole centrale des quatre, des sept. Elle est exprimée, elle seule, avec ses mots originaux, tels qu'ils ont été prononcés sur la croix, dans la langue dans laquelle il les a prononcés. C'est le cas seulement de cette quatrième parole. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est la seule parole, cette quatrième, qui est rappelé dans deux évangiles, alors que les six autres ne sont donnés que dans un seul évangile. Mais comme si Dieu voulait mettre en évidence cette parole centrale que le Seigneur Jésus a prononcée sur la croix, la quatrième, la mettre en évidence en la faisant rappeler par deux évangélistes, comme s'il fallait qu'il y ait au moins deux témoins qui écrivent cela, et puis qu'elle soit vraiment attestée comme étant vrai par les mots qu'il a prononcés dans sa propre langue, avec la traduction « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette troisième phase de sa vie, c'est, on peut dire, ces trois heures de ténèbres où il a expié nos péchés. Phase terrifiante, terrible, dans laquelle nous ne pouvons pas entrer. Dieu seul a pu mesurer quelle a été cette horreur pour son bien-aimé que d'être fait pécher. Ce premier aspect de ces moments, être fait pécher, mais lui qui avait en horreur le mal, de se charger de nos péchés, quelque chose qui est épouvantable pour lui. Mais quelle terrible chose pour lui, dans sa sainteté, de se trouver ainsi chargé de péchés qu'il n'avait pas commis, mais qu'il prend comme si c'était lui qui les avait commis. On ne peut pas imaginer ce que cela a été pour le Seigneur. On parle du poids du péché pour lui. C'est un infini de détresse, d'horreur de lui-même, de devoir confesser devant Dieu ce que nous avons commis, de répondre devant Dieu à tout ce qui était un outrage à la sainteté de Dieu. Lui-même, le Fils de l'homme, qui était sans péché, est devenu, a été fait péché pour nous. C'est à distance que nous pouvons contempler cette scène. Les ténèbres sont là, un élément de terreur, de plus, pourrions-nous dire, parce que dans la nuit totale, il y a toujours un aspect de crainte. N'est-ce pas pour cela que le soir avant de nous coucher, souvent nous demandons d'être gardés pendant cette nuit? Une nuit totale, être fait pécher. Et par-dessus cela, devant Dieu, il reçoit le jugement que méritent nos péchés. Il est frappé de Dieu comme mérite le péché. Et pour cela, il est considéré, il est devenu malédiction pour nous, un objet d'horreur pour Dieu. Comment une telle chose pouvait être envisageable? Lui, ce Fils de l'homme, toujours tellement attaché à son Dieu, obéissant, désirant le servir, lui obéir, il aimait son Dieu, de devenir un objet d'horreur pour lui. C'est infiniment douloureux, c'est inaccessible pour nous. C'est bien à distance que nous pouvons parler de ces choses. Il devient malédiction pour nous. Tout cette colère de Dieu qui s'abat, il la réalise dans cet abandon de son Dieu fort. Être abandonné de Dieu. Peut-être que des hommes peuvent connaître ce que c'est de terrible que d'être abandonné de ses parents. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Ou une femme, ou un mari, d'être abandonné par son conjoint. Ce sont des choses qui peuvent exister malheureusement et qui peuvent être dramatiques. Mais être abandonné de Dieu pour Jésus, pour notre Seigneur, est quelque chose d'infiniment douloureux. Il peut s'exprimer en disant « Mon Dieu, mon Dieu ». Alors qu'il connaît ses 3 heures de ténèbres, à la fin de ces 3 heures, il s'exprime encore avec ce pronom possessif, personnel, « Mon Dieu ». Dieu qui l'a abandonné reste toujours son Dieu à lui, mon Dieu. Et on peut discerner une affection, un amour au travers de ce pronom personnel, mon Dieu. On peut dire que rien n'a affaibli l'amour qu'il avait pour son Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi ? Cette phase, ces 3 heures de ténèbres, peut dire, se conclut par ce cri de détresse qui exprime toute la douleur de l'expiation. Elle nous plonge dans l'adoration en réalisant combien le Seigneur, notre Sauveur, a souffert, combien il nous a aimés pour supporter, pour endurer la croix, endurer une telle chose. Nous ne pouvons que nous prosterner devant lui. Oui, il nous a aimés jusqu'à la mort. On peut lire quelques versets dans psaume 40. On a quelques expressions qui nous parlent de ce qu'il a ressenti. Il y a beaucoup de versets dans l'Ancien Testament qui nous parlent prophétiquement de ce qu'allait connaître le Seigneur. Psaume 40 et au verset 12. « Car des maux sans nombre m'ont entouré, mes iniquités m'ont atteint et je ne puis les regarder. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon cœur m'a abandonné. » Voilà ce que le Seigneur a ressenti lorsqu'il s'est chargé de nos péchés. Et puis, dans le psaume 30, au verset 7, psaume 30 et au verset 7, à la fin du verset 7, « Tu as caché ta face, j'ai été épouvanté. » Et en Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 7, « Il a fait une clôture autour de moi afin que je ne sorte point. Il a appesanti mes chaînes. Même quand je crie et que je lève ma voix, il ferme l'accès à ma prière. Il a barré mes chemins avec des pierres de taille. Il a bouleversé mes sentiers. » Voilà ce que notre Sauveur a connu. Cette absence totale, total de communication avec Dieu. Nous ne réalisons pas ce que cela est en réalité, de ne plus avoir possibilité de contact avec Dieu et en corollaire de ne plus avoir d'intervention de Dieu pour nous. Nous ne connaîtrons jamais cela. Parce que lui a réglé cette question du péché. Mais là, durant ces 3 heures, c'est lui qui passe par là. Quelle chose terrifiante. Quelle application pourrions-nous tirer de cette terrible scène? On peut en tirer une application. En rapport avec l'humanité, dans la partie, dans la période où l'homme est vivant sur la terre, est le moment où il est mort dans ses péchés et sous le jugement de Dieu pour l'éternité. On peut faire ce que le Seigneur Jésus a connu dans cette communion intense avec son Dieu durant toute sa vie et ses 3 heures de ténèbres, d'une absence totale de communion avec Dieu, mais le jugement qui tombe sur lui. On peut faire le parallèle avec ce qui est la part de l'humanité aujourd'hui qui vit sur la terre par rapport à ce qui suivra pour ceux qui meurent dans leur péché. Aujourd'hui, tout homme est au bénéfice de la bonté de Dieu. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, il bénéficie, qu'il le sache ou non, de la bonté de Dieu. Et on peut le lire en Matthieu 5. Le Seigneur Jésus lui-même le dit au verset 45. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Tous sont au bénéfice de l'alternance jour-nuit, le soleil, la nuit, la pluie. Toutes ces choses sont données pour les hommes, qu'ils soient croyants ou qu'ils soient incrédules. La bonté de Dieu est là à l'égard de tous les hommes. Un autre verset dans l'Ecclésiaste au chapitre 5, Ecclésiaste 5, au verset 19, et encore, tout homme auquel Dieu donne de la richesse et des biens, et le pouvoir d'en manger et d'en prendre sa part et de se réjouir en son travail, c'est là un don de Dieu. Au verset 18, voici ce que j'ai vu de bon et de beau, c'est de manger et de boire et de jouir du bien-être dans tout le travail dont l'homme se tourmente sous le soleil tous les jours de sa vie que Dieu lui a donné. Car c'est là sa part. On peut jouir de son travail, avoir du plaisir à faire ce qui est placé devant nous. Que l'on soit croyant ou que l'on soit incrédule, tous les hommes peuvent avoir du plaisir dans le travail qu'ils font. Et puis, il est dit, en rapport avec les biens, la richesse, certains, il y a des personnes à qui Dieu donne de la richesse et des biens, et non seulement cela, mais de pouvoir en manger, d'en prendre sa part, de se réjouir en son travail, Tout cela, c'est un don de Dieu. Qu'il soit croyant, qu'il soit incrédule. Tous les hommes sont au bénéfice de cette bonté de Dieu qui leur accorde ces choses. Et le pouvoir de pouvoir en jouir est un don de Dieu. Alors, la conséquence qui est désirée par Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, elle est donnée en Romains au chapitre 2. Romains chapitre 2, au verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Voilà le désir de Dieu, c'est que tous les hommes se repentent et viennent à la connaissance de la vérité. Il y a cette bonté qui s'exerce à l'égard de tous les hommes, mais cette bonté doit pousser l'homme à la repentance. Mais qu'arrive-t-il si l'homme reste dans la jouissance de ses biens sans s'inquiéter de Dieu? Ce Dieu qui a pris tellement à cœur l'homme sur la terre, en lui fournissant ainsi son soleil, la pluie, en fournissant un travail qui peut-être l'a beaucoup captivé et intéressé, et de la nourriture et la capacité de pouvoir manger, la santé. Ce Dieu qui a, on peut dire, tout fait pour l'attirer vers lui, il l'a refusé. Il meurt dans ses péchés. Qu'arrive-t-il? Il est jeté dehors. Il est jeté dans l'obscurité. Lorsque le jugement sera réalisé, le Seigneur a pu le témoigner dans plusieurs paraboles, où les grincements de dents, l'obscurité, le jugement qui est prononcé ainsi, et surtout, plus aucune communication avec Dieu. L'homme, durant l'éternité, qui n'a pas voulu du salut par Jésus-Christ, connaîtra alors cette interruption totale de relation avec Dieu. Il ne pourra plus avoir de contact avec Dieu et Dieu ne prendra plus jamais contact avec lui. C'est l'obscurité totale, c'est le grincement de dents qui parle de ce regret, ce remords d'avoir pas su saisir l'occasion alors qu'il était vivant et que cette bonté de Dieu s'exerçait à son égard, à son insu peut-être, mais qu'il a refusé, lui est désormais absolument interdite. Il ne peut plus avoir de relation avec Dieu. Alors quand nous réalisons un peu la part qui sera connue par ceux que nous connaissons, qui n'ont pas encore donné leur cœur au Seigneur Jésus, est-ce que cela ne nous incite pas à supplier pour Christ, qu'il soit sauvé, à supplier et rechercher, à avoir cette parole à propos pour pouvoir apporter une parole de salut de la part du Seigneur, pour qu'il ne tombe pas dans une éternité de malheur, d'une telle gravité, sans aucun retour possible. Alors, pour en revenir au Seigneur, il a accompli, il a souffert cette heure terrible de la croix. Et on peut lire dans 2 Corinthiens combien nous sommes épargnés, nous sommes délivrés de cette terrible chose d'être séparés de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 10, l'apôtre peut dire « Dieu qui ressuscite les morts, qui nous a délivrés d'une si grande mort et qui nous délivre. » Oui, Dieu nous a délivrés d'une si grande mort. Et puis, en hébreu, il y a aussi ce passage en hébreu 2. Hébreu 2, verset 15, verset 14, verset 15, à la fin du verset 14, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Oui, nous sommes délivrés de cette crainte de la mort parce que Christ a entièrement réalisé cette œuvre qui nous a délivrés de nos péchés, de cette culpabilité. Et puis encore ce verset de 1 Jean 5 où il est dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » 1 Jean 5, verset 13. Oui, nous sommes délivrés à jamais de cette horreur de ne plus avoir de contact possible avec Dieu. Mais au contraire, dans la maison du Père, nous serons rayonnants dans la lumière de l'amour et de la présence du Seigneur Jésus. La quatrième phase, quelques mots encore concernant cette quatrième phase. Donc cette quatrième phase du Seigneur se termine par ces mots que nous avons lus en Luc 24 et au verset 50. On peut lire depuis le verset 50. « Et il les mena dehors jusqu'à Béthanie et levant ses mains en haut, il les bénit. » Et il arriva qu'en les bénissant, il fut séparé d'eux et fut élevé dans le ciel. Voilà cette dernière phase qui commence à la fin de l'œuvre de la croix et qui va jusqu'à l'élévation du Seigneur Jésus dans la gloire. Que s'est-il passé dans cette phase? Elle est déjà conclue par la bénédiction. Il les bénit. Alors, on n'a pas l'expression de cette bénédiction par des paroles, par des mots, mais tout ce qui concerne les bénédictions dont nous sommes les objets sont inclus. Nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Il les bénit. Le dernier acte que le Seigneur Jésus a accompli sur la terre, il bénit ses disciples. Et que s'est-il passé pendant toute cette dernière période d'environ de 40 jours? Nous le voyons ressuscité, annoncer à Marie, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Quelle bénédiction de connaître notre Dieu comme notre Père. Et puis ensuite, s'approchant des disciples qui sont découragés, qui s'éloignent du rassemblement, il se joint à eux et il parle de ce que toutes les Écritures ont annoncé. Et eux réalisent que c'est lui qui est ressuscité. Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait dans le chemin? La bénédiction du Seigneur Jésus qui nous accompagne lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes tristes. Et puis ensuite, quand il est au milieu de ses disciples, paix vous soit. La bénédiction continue dans cette expression que le Seigneur Jésus lui-même donne. Et puis enfin, en Luc 24 encore, à la fin du 24, au verset 44, ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Verset 46, et il leur dit, il est ainsi écrit. Et ainsi il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Mais Jérusalem, c'est là où il était, où il a été crucifié, c'est là où il a souffert, c'est là qu'il a pu dire, Père, pardonne-leur. Eh bien, l'œuvre accomplie, son premier désir, c'est que l'Évangile soit annoncé à Jérusalem. Quelle bénédiction résulte de cette œuvre de la croix pour tous les hommes et en particulier pour les disciples, pour ceux qui sont avec lui. Alors voilà, cette quatrième phase se termine, il les bénit. Et nous sommes aujourd'hui encore sous cette, on peut dire, cette déclaration de bénédiction. Nous pouvons nous réjouir dans notre Seigneur qui est vivant, qui est glorifié, assis à la droite de Dieu. On a pu en rappeler quelque chose ce matin, couronné de gloire et d'honneur, et qui est là, on voit, qui voit nos circonstances et qui veut et qui nous bénit. Et nous pouvons que lui faire confiance, que tout ce qu'il permet pour nous, il le tient dans sa main et il veut notre bénédiction, il veut notre cœur, il veut que nous nous attachions à lui. Et ces quelques phases que nous avons pu voir nous montrent, sont bien propres à attacher nos cœurs à lui.
Une pensée en rapport avec ces deux passages que nous avons lus, Luc 23 et Matthieu 27. Luc 23, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dieu ne laisse pas une telle prière sans réponse. Et on la réponse, un bout de la réponse nous est manifesté tout de suite dans les versets qui suivent à travers ce malfaiteur. Nous ne savons rien de ce malfaiteur, si ce n'est qu'il a été témoin de tout ce qui venait de se passer quand il a été lui-même crucifié, qu'il a vu son compagnon crucifié, le Seigneur Jésus crucifié. Ce malfaiteur avait passé par un procès dont sa conclusion, sa propre conclusion, c'est pour nous, verset 41, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Il est d'accord avec la justice des hommes qui, probablement, dans sa situation, traduit la justice de Dieu. Mais il a entendu cette prière du Seigneur. Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Il y a un pardon possible. Et celui qui vient de faire cette prière, il peut, le malfaiteur peut dire, verset 41 à la fin, « Celui-ci n'a rien fait qui ne dût se faire. » Que savait-il du Seigneur ? Nous n'en savons pas grand-chose, si ce n'est qu'il a été témoin de ce qui venait, de ce qui était en train de se passer. Et alors, il peut demander au Seigneur, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Et entendre cette réponse du Seigneur, en vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il y a pardon. Il y a déjà pardon pour lui, même s'il n'était pas un de ceux qui a crucifié le Seigneur. Il n'y a pas de grands péchés, de petits péchés devant Dieu. Être meurtrier, ou avoir rejeté le Seigneur, s'être moqué de lui, bien sûr. On peut dire qu'il y a une gravité particulière à s'être moqué du Seigneur, à l'avoir rejeté, jugé de manière inique. Mais pouvons-nous juger, établir une échelle de péché? Et le Seigneur lui-même, dans sa prière, dit « Ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais à cette prière du Seigneur, il y a là déjà, tout de suite, un fruit. Une âme qu'il reconnaît sur la croix comme ce qu'il est, qui s'adresse à lui pour implorer ce pardon et qu'il reçoit. Et puis, dans Matthieu 27, verset 50, il nous est dit, Jésus ayant encore crié d'une forte voix, rendu l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent. Et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent, et étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville et apparurent à plusieurs. Ces 3 heures de ténèbres n'ont pas été raccourcies d'une seule seconde. Elles ont été ce qu'elles devaient être. Avec cette question, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne reviens pas là-dessus. Ayant crié d'une forte voix, Luc ne nous rapporte pas le contenu de ce cri. C'est Jean qui nous le dit. C'est accompli. L'œuvre est accomplie, il n'y a rien à y ajouter. Et la réponse est immédiate. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla. La réponse est immédiate, le chemin vers Dieu est ouvert. Personne ne le sait, personne ne le voit encore. Peut-être des sacrificateurs à l'instant, au moment même ou plus tard, on était la veille du sabbat, on était un jour de fête particulier, fête des propitiations qui commençait, le jour de la préparation, il nous est dit, il y avait le service du temple, ce voile déchiré n'est pas passé inaperçu. Le voile déchiré, quelque chose de choquant. Oui, quelque chose d'extraordinaire. Le chemin vers Dieu est ouvert. Le chemin vers Dieu est pleinement ouvert. Et puis la terre a tremblé, des rochers se fendent, des sépulcres s'ouvrent, la mort est vaincue. Bien sûr, ce n'est que une anticipation, mais on peut lire, et je termine avec ça, ces passages de 1 Corinthiens 15 qui nous projettent dans ce futur. Verset 54. Or, quand ce corruptible aura revêtu d'incorruptibilité, que ce mortel aura revêtu d'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : la mort a été engloutie en victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon ? Où est, ô mort, ta victoire ? Ce cri du Seigneur s'est accompli et la manifestation est donnée tout de suite que la mort est vaincue. Le voile du temple se déchire, il y a ces tombeaux qui s'ouvrent, toutes ces choses-là. Le Seigneur, Dieu répond directement au Seigneur dans sa prière, Père pardonneur, dans ce cri, pourquoi mon Père? Pourquoi m'as-tu abandonné? L'œuvre du Seigneur est entièrement reçue, approuvée, avec des fruits, avec un résultat tout de suite manifesté. Même si ces deux résultats, ce brigand, aussi bien que ce voile, ces tombeaux qui s'ouvrent, ne sont qu'une anticipation, mais ils sont déjà là tout de suite, comme cette anticipation de ce qui sera.